Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
C'est la vidéo du jour, vidéosurveillance algorithmique qui sera autorisée durant les prochains JO à Paris. Des caméras intelligentes pour notamment donner l'alerte en cas d'anomalie du comportement, de mouvement de foule, d'une personne qui court, qui se met subitement à courir ou alors qui tombe. Mais Alfred, certains aimeraient aller plus loin.
Oui, parce que ces caméras intelligentes qui seront donc utilisées pour les Jeux n'analyseront ni les visages, ni les plaques d'immatriculation, assurent notamment les sociétés qui les commercialisent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la loi française l'interdit, mais certaines villes font les yeux doux à cette reconnaissance faciale. À Nice, par exemple, la ville aimerait tester le dispositif, mais se heurte à la loi. La police nationale est d'ailleurs sous le coup d'une enquête à Nice de la part du ministère de l'Intérieur. Les policiers niçois sont accusés d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale qui s'appelle Briefcam pour surveiller les rues et les transports. Aucun texte de loi ne le permet en France, mais c'est ce que redoutent certains élus et associés. C'est qu'à terme, ces méthodes finissent par être autorisées et que la reconnaissance faciale fasse irruption dans notre quotidien.
Délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale? Vous nous appelez au 3216. Juliette Briens.
Et moi, je suis contre. Je suis contre parce qu'on laisse s'installer depuis 50 ans, 40 ans dans ce pays, le chaos.
Mais tu es contre quoi, toi?
Je suis contre l'installation d'une reconnaissance faciale.
Ah bon?
Totalement, oui. On laisse s'installer dans notre pays depuis 40 ans le chaos total. Et après, on nous dit, maintenant c'est l'enfer, sécurisons l'enfer, on va mettre des portiques partout, on va mettre de la reconnaissance faciale et tant d'autres mesures liberticides et on va transformer notre pays en un état policier. Moi, je suis désolée, je ne veux pas vivre dans un état policier. Quand on voit aujourd'hui que le jeune qui avait agressé Angèle à Cannes, par exemple, la mamie de 89 ans, qui l'avait mis un coup, vient de se faire choper aujourd'hui pour deal de drogue. Quand on voit que le terroriste de Bir Hakeim était sorti de prison alors qu'il était accusé...
Ça n'a pas de rapport avec l'intelligence.
Je vais vous expliquer. Alors qu'il était accusé de conspiration pour attentat terroriste et qu'il est sorti sous contrôle judiciaire, il était en communication avec des terroristes, notamment dans l'affaire Samuel Paty. C'est ça qu'on a besoin de régler. C'est ça qu'on a besoin de régler. On a besoin d'enfermer les gens.
En fait. Pardon ? Tu veux dire que la reconnaissance faciale
n'apportera rien ? Elle peut apporter quelque chose. Ce qu'elle peut apporter, c'est une surveillance. Voilà, on peut être comme en Russie aussi. On peut vivre sous surveillance. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? Mais ces choses-là, ça peut aller très loin. Vous pensez que pendant le Covid, par exemple, quand on n'avait pas le droit de sortir de chez nous sans autorisation de sortie, et que la reconnaissance faciale est en place. Vous pensez qu'on peut pas se servir de la reconnaissance faciale pour justement voir qui sort de chez soi et qui est allé sortir ses poubelles un peu trop longuement aujourd'hui? Non, mais moi je veux pas vivre dans ce genre d'état. Je suis désolée, je ne veux pas. Donc réglons nos problèmes, arrêtons le laxisme, construisons des places de prison et puis arrêtons de sécuriser l'enfer constamment.
Thierry Moreau.
Évidemment, je suis pas sur la même ligne que Juliette parce que d'abord, je pense qu'on n'est pas dans un état policier. On est très très loin d'être dans un état policier. Faut pas se leurrer, la DGSI, la DGSE utilisent déjà des logiciels de reconnaissance faciale dans des cas extrêmement précis.
Voilà, dans des cas
de reconnaissance,
extrêmes,
ouais. Absolument. Mmh. Il y a eu un documentaire sur France Télévisions cette semaine sur la DGSE qui explique, qui parle de ça notamment. On est dans une démocratie où il y a un truc qui s'appelle la CNIL, qui a été créé et qui justement veille à l'encadrement, je dirais démocratique ou en tout cas sauvegarde des libertés de ces procédures. Il faut savoir l'utiliser quand c'est nécessaire. Enfin, les spécialistes, quand on lit un peu la littérature sur les sociologues qui parlent de ça, ils disent qu'il faut l'utiliser quand c'est nécessaire et de façon proportionnelle. Je pense qu'on est un peu dans cette veine-là. Il y a déjà des expérimentations. Je rappelle que l'Australie, qui est quand même pas un état policier, l'a utilisé. Je pense que l'Allemagne a fait des expérimentations aussi. C'est pas un état policier, l'Allemagne.
Non, puis on peut imaginer en plus que dans une foule, s'il y avait une reconnaissance faciale, l'alerte ne va se déclencher que si la personne est fichée, recherchée.
Oui, il y a plein de moyens, en tout cas, de garde-fous.
Ça commence toujours comme ça au début, évidemment.
C'est pour que ce soit le pouvoir judiciaire qui encadre ça et non pas le pouvoir administratif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit encadré par un juge, par un pouvoir judiciaire qui est indépendant de l'exécutif. Si on arrive à avoir ces garde-fous, je pense que la reconnaissance faciale, de toute façon, on va y arriver de facto. Donc autant essayer de l'encadrer, c'est comme l'histoire des écrans, c'est comme l'histoire des réseaux sociaux.
Essayer de l'encadrer, toi, même toi, tu crois pas. Parce que tu sais très bien que ça commence comme ça, on met des règles, on dit non, que dans un cas spécial, que pour le terrorisme, que pour ça, et puis à la fin, on a le crédit social comme en Chine.
On n'est pas en Chine, où t'as un capital social.
On deviendra peut-être, justement. Ne créons pas les conditions, justement, d'un glissement, parce qu'avec le chaos qui s'installe en ce moment, je te dis, le glissement s'opérera, si on ne met pas des stops maintenant.
Pierre-Edouard Magnan.
Alors, c'est pas facile parce qu'entre Hitler et le chaos, j'ai du mal à choisir. Alors, moi, je fais partie des gens qui considèrent que je préfère renoncer à une partie de ma sécurité au nom de ma liberté. J'irais même des libertés individuelles et collectives, parce qu'on oublie souvent les libertés collectives quand on discute. Et effectivement, moi, je suis inquiet par ces démarches de repérage et de fichage, parce que derrière ces démarches, il y a aussi un vrai problème, c'est la conservation des données.
Il n'y a pas de fichage.
Alors, non mais... J'emploie le mot fichage. Là, on est en Chine. Si on est en Europe, avec les règles qui sont normalement qui s'appliquent, notamment le règlement général de protection des données, mais il y a la question de la conservation, de la durée de conservation et du traitement de ces données. Je vais être un peu technique, mais c'est ça le sujet. Ce sujet, effectivement, c'est pas le chaos Hitler. Mais je vais dire en plaisantant, la Hongrie, c'est pas un régime nazi, c'est pourtant pas un régime dans lequel j'aurais envie de vivre. Il y a plusieurs échelons, il y a plusieurs niveaux. Et si on commence effectivement, parce que à un moment on va repérer les gens, mais ça veut dire que quand il va y avoir, on parlait de grève, des manifestations, on va vouloir anticiper. Alors on va dire ah oui, mais c'est pour les black blocs autour qu'on anticipe. Puis on va commencer à filmer les gens. Et puis du coup on va avoir des éléments. Et n'oubliez jamais qu'une force de police, quelle qu'elle soit, quand elle a des informations, elle les utilise. Personne ne renonce à utiliser des informations qu'il possède, quand bien même il ne devrait pas l'avoir. Il avait dit ah non, mais vous inquiétez pas, je l'utiliserai pas pour ça. Donc je trouve que le risque est grand. Et moi j'allais dire, je trouve que je préfère renoncer à une sécurité que de renoncer à une liberté. Alors, oui, c'est dur. Oui, si j'étais moi-même une victime du terrorisme, ou si ma fille était victime du terrorisme, je ne sais pas si je tiendrais ce discours-là, parce qu'évidemment, je serais dans l'affect et je serais directement concerné, et ce serait très dur. Mais de manière sociale et globale, je pense qu'il faut effectivement toujours préserver les libertés. Et j'insiste, individuelle et collective, plutôt effectivement que la sécurité. D'autant qu'entre parenthèses, ces systèmes-là facilitent les enquêtes après coup, mais ils n'empêcheront jamais rien en amont. C'est-à-dire que ce ne sont pas des systèmes qui empêchent quoi que ce soit. Donc on renonce sûrement à une liberté sans garantie derrière d'une sécurité supplémentaire.
Savoir renoncer à un peu de liberté individuelle pour l'intérêt du collectif.
Mais voilà,
l'intérêt
mais tu vois,
de la sécurité, de la sûreté.
Le Covid, comme tu vois, le Covid, on nous expliquait que c'était une question de vie ou de mort, qu'on comptait les morts tous les soirs, etc. Bon, donc on aurait très bien pu, si c'est une question de vie ou de mort, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale pour ficher tout le monde dans la rue, voir qui est parti courir une heure de trop. Non mais réponds là-dessus, c'est quand même un exemple.
On n'en a pas eu besoin à l'époque.
Un exemple typique. On a sorti les drones, je vois pas pourquoi on n'aurait pas sorti la reconnaissance faciale.
On n'a pas eu besoin.
Mais réponds au moins là-dessus.
Il n'y a pas eu besoin, comme le dit Rémi. Les drones, on les a très très peu utilisés d'ailleurs. Donc il n'y a pas eu besoin. Les gens ont à 99,9%.
Mais parce que c'était la première fois. Imagine, il y a recovid et les gens sont plus réfractaires. Parce que à mon avis, ce sera le cas.
Ça n'arrivera pas parce qu'on est dans une démocratie.
Ah, ça n'arrivera pas. Ah ouais, oui, d'accord. On est dans une démocratie.
Il y a des garde-fous.
Il y a eu beaucoup de choses antidémocratiques pendant le Covid, sur lesquelles le gouvernement sont revenus d'ailleurs.
Délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale? On vous pose la question, vous nous appelez au 32-16 et vous réagissez sur les réseaux sociaux de Estelle Midi, notamment sur Direct Studio. Alfred.
Oui, vous êtes très nombreux à nous écrire. Didier, le problème, c'est que comme beaucoup de choses, on a commencé par une très bonne idée et ça va finir par une généralité. Et puis Guy qui nous écrit, le risque est immense, je ne veux pas vivre en Russie ou en Chine.
On va au 32-16, justement, retrouver Patricia, c'est ça ?
Oui, c'est Patricia.
Bonjour à tous. Patricia, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez depuis le département de l'Aude ?
Tout à fait.
On est dans quel coin ?
Narbonne.
Très bien. Vous faites quoi dans la vie, Patricia ?
Artisan taxi.
D'accord. Vous êtes pour ou contre la reconnaissance faciale ?
Pour, et même au-delà, je vais faire bondir quelques-uns sur votre plateau.
Allez-y.
Mais pour commencer, un événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. Et puis, ceci dit, cette mesure, vous voyez, vu l'état de délabrement de la société française, pour pas dire du reste du monde, je vais vous dire, cette mesure-là, moi, je l'étendrai bien à tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et ça ne me pose aucun problème, de savoir que je suis filmée, de savoir si je vais manger avec Pierre, Paul ou Jacques, ou de savoir à quelle heure je suis rentrée le soir, et surtout avec qui je suis rentrée. Ça ne me pose aucun problème.
C'est
à
l'idée,
partir du moment...
j'ai rien à me reprocher. Donc
exactement.
Allez-y.
À partir du moment où je n'ai rien fait de malhonnête ou de grave, ça ne me pose aucun souci. Mais qu'on ne s'inquiète pas, vu que des mesures fermes, il y a trop de laxisme, ne sont pas prises depuis des décennies, on va y venir doucement et sûrement. Et ça ne me déplaira pas aucunement, sincèrement.
Ça ne vous déplaît pas, évidemment. Moi non plus, je n'ai rien à me reprocher. Donc, ça ne nous déplaît pas aujourd'hui dans cette société démocratique dans laquelle on vit, dans ce modèle dans lequel on vit. Mais moi, je vous le dis, Patricia, il faut se protéger pour l'avenir. Et toutes ces mesures liberticides de quasi-surveillance, elles ne sont pas souhaitables pour l'avenir et le chaos, il ne fallait pas laisser, le laisser s'installer et il faut le régler par d'autres manières.
Qui l'a laissé s'installer le chaos ? Le chaos, je vais vous dire, c'est le laxisme de la gauche.
C'est ce que je dis.
C'est ce que je dis. Mais il est trop tard. Donc
moi, non, il n'est pas trop tard. Il y a des solutions, je vous promets qu'il n'est pas trop tard.
Dites-moi lesquelles.
Eh bien, il faut réformer la justice, il faut construire des places de prison, il faut enfermer, il faut faire baisser notre taux de récidive. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut énormément de volonté.
D'accord.
Ce sera toujours plus souhaitable.
Le jour où on construira, c'est pas 40 000 places de prison qu'il faut, parce que nous ne représentons même pas 10% de la population des prisonniers. Je crois qu'ils représentent 4% de la population. Mmh. Donc, autant dire, c'est nul. Le jour où on construit 100 000, 200 000, 300 000 places de prison, là, je vous suivrai. Mais on en est loin, parce qu'il y aura toujours la gauche qui va pousser des cris d'orfraie, et puis qu'au secours...
Ah, j'ai pas vu la droite non plus, on construit beaucoup.
Emmanuel Macron, on avait promis 15 000.
Il dit que la prison, c'est pas la solution. Je sais pas ce qu'il fout à cette fonction. C'est inacceptable à mes oreilles d'entendre ça.
Merci Patricia d'avoir été avec nous. C'était très clair.
Merci.
Patricia qui nous appelait au 32-16 depuis du côté de Narbonne. On va rejoindre Denis Jacob. Oui, on a procédé à une reconnaissance faciale. On s'est dit qui on va inviter. Et là, est apparu le visage de Denis Jacob. Bonjour Denis Jacob.
Bonjour Rémi. Bonjour à
bonjour. Tous. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT. On vous connaît bien dans Estelle Midi. Denis Jacob. La reconnaissance, on sait qu'il va y avoir une mise en place sous forme expérimentale d'une reconnaissance, d'une vidéosurveillance algorithmique durant les JO. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement de foule qui se produit, un départ de feu, quelqu'un qui brandit une arme, quelqu'un qui tombe soudainement à terre d'une manière brusque, quelqu'un qui se met à courir alors que il y a quelque chose qui n'a pas besoin de courir à ce moment-là, ou en tout cas c'est anormal, il va y avoir une alerte qui va se déclencher. Ça, c'est une première étape. Ça va être testé durant les JO. Est-ce que déjà, ça, c'est bien ?
Vous savez, je vais être beaucoup moins radical que d'habitude, Rémi, sur ce
allez-y.
Sujet. Parce qu'entre ce que j'ai entendu sur le plateau et puis l'intervention de l'auditrice
Patricia.
Juste avant, Patricia, entre les discours complotistes de fichage, de la police va détenir des données
merci,
à
Denis.
Utiliser pour autre chose et autres. Non, faut arrêter quoi. Enfin, c'est pas la police Big Brother. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. À l'inverse, pour nous, c'est un outil supplémentaire. C'est pas la solution, mais c'est une solution parmi d'autres pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Et ça doit faire l'objet dans son utilisation d'un régime d'exception tel que l'Europe vient de le proposer, c'est-à-dire selon certains critères bien déterminés, et notamment celui de la lutte contre le terrorisme. Utiliser la reconnaissance faciale...
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il faut aller plus loin ?
Ça dépend pourquoi. Là, en l'occurrence, on a déjà la vidéosurveillance. On est dans un attroupement, on voit une bousculade, un individu qui commence à s'échapper en courant. La reconnaissance faciale dans l'immédiat, elle n'est pas utile. Il faut utiliser la vidéosurveillance, suivre le parcours de l'individu pour pouvoir orienter les patrouilles de police et procéder à son interpellation.
Oui, mais imaginons Denis Jacob, j'imagine, parce que ça sert à ça aussi, la reconnaissance faciale. On est pendant les JO. À l'entrée d'une salle où doit se dérouler l'une des compétitions, et puis la reconnaissance faciale reconnaît quelqu'un qui est fiché pour terrorisme. Ça peut être utile, non ?
J'allais y venir, effectivement, ça c'est la deuxième partie. Quand on a des enquêtes qui sont déjà lancées sur des individus qui sont recherchés pour crime ou parce qu'ils font l'objet d'un suivi pour une suspicion de passage à l'acte terroriste, on parle de reconnaissance faciale ou de logiciel algorithmique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme va envoyer des informations précises dans le logiciel pour dire voilà, on a un signalement d'un individu qui est de telle sorte, habillé de telle manière, et c'est sur la base de ces données qui vont être rentrées par l'être humain, que la reconnaissance faciale va faire le tri des personnes qui correspondent aux données qu'on lui a données.
Donc c'est l'homme qui maîtrise la machine des conditions particulières.
Parce que vous savez, il y avait une série américaine qui était très intéressante et qui posait véritablement ce problème. C'est la série Person of Interest.
Vous la connaissez.
Et elle était très bien faite parce que ça démontrait justement le débat qu'il y a sur le plateau aujourd'hui de la dangerosité. Faut pas le nier. Moi, je ne souhaite pas une société Big Brother, pas du tout. Mais ça montrait aussi l'atout que ça avait de prévenir des crimes. Donc, le but, c'est bien de garantir la sécurité des personnes et des biens sans que ça soit détourné à un usage autre pour lequel il est destiné, à savoir assurer la sécurité de nos concitoyens sur des situations particulières, c'est-à-dire que ça doit pas être quelque chose de généralisé au quotidien pour tout et n'importe quoi, mais sur une alerte terroriste, sur des événements internationaux comme les JO qui va brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des millions de personnes, et de pouvoir garantir aux gens qui vont pouvoir participer à un événement festif en toute sécurité, et nous de pouvoir leur garantir avec un outil supplémentaire qui nous permettra de gagner du temps et de l'efficacité pour neutraliser potentiellement un individu qui va commettre un crime et autres.
Denis Jacob, une question en tant que secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Sur le terrain, la remontée des équipes qui sont sur le terrain, est-ce que parfois certains policiers vous disent, rongent un peu leurs freins face aux entraves qui leur sont mis, aux bâtons qui leur sont mis dans les roues, parce qu'ils se disent parfois, mais on a des outils aujourd'hui, pourquoi on les utilise pas? Ça nous aiderait quand même vachement. Est-ce qu'il y a cette remontée là?
Non, là, pas vraiment, parce que si vous voulez, la reconnaissance faciale, elle a deux objectifs. La première, c'est des gens qui sont derrière des écrans et qui vont travailler en complément du travail du logiciel ou dans le cadre d'enquête. C'est en temps réel. En temps réel, le policier du terrain n'utilise pas la reconnaissance faciale. C'est un outil numérique. Et je voudrais rebondir à ce que j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure. On peut pas d'un côté dire, moi, je ne veux pas la reconnaissance faciale parce que c'est une atteinte à ma liberté. Peut être entendu, je le remets pas du tout en cause, mais d'un autre côté, de dire la police, elle doit absolument prouver qu'elle est exemplaire et imposer aux policiers d'avoir des caméras sur eux, chose que je revendique et que je défends, puisque pour moi, c'est avant tout un outil de sécurité juridique pour le policier dans sa mission au quotidien, mais on peut pas d'un côté dire, les flics, ils doivent absolument justifier de tout, doivent pouvoir prouver de leur exemplarité, donc il faut leur imposer une caméra et puis il faut qu'ils filment en temps réel tout ce qu'ils font, puis d'un autre côté, de dire « Ah mais non, mais les gens, faut pas les surveiller. »
Non mais excusez-moi, mais c'est pas pareil. Monsieur Jacob, c'est pas pareil, la police...
Et pour les deux cas de figure...
C'est pas pareil, parce que la police, elle...
Exactement pareil,
excusez-moi,
madame.
Je peux terminer ma phrase.
La CNIL, elle surveille de la même manière.
Non mais...
Juliette Brias.
Excusez-moi.
Monsieur
Jacob.
Juliette Brias.
La police, elle a le monopole de la violence légitime. C'est tout à fait normal qu'on regarde de quelle manière elle s'en sert. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec le citoyen lambda qui sort dans la rue.
Il est censé respecter la loi.
Il y a une immense différence entre un fonctionnaire de police armé qui a le monopole de la violence légitime et un citoyen.
Je ne vous dis pas que le policier ne doit pas justifier de l'exemplarité de son comportement sur le terrain. Je vous dis qu'on ne peut pas d'un côté dire il faut justifier pour les uns parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Et de l'autre, vous, par exemple, qui, au prétexte que vous êtes une citoyenne lambda, vous allez commettre un délit et que vous ne devriez pas être surveillé justement pour vous empêcher de commettre ce délit.
Non, mais pour m'empêcher de commettre un délit, on peut me mettre en prison. Non, excusez-moi, mais vous connaissez la justice, un procès équitable. Non, mais c'est pas comme ça en fait. Non, si j'ai commis un délit, j'ai le droit à un procès équitable, à une défense avec un avocat, et si je suis coupable, on prend des mesures de justice. On n'est pas dans un état de surveillance.
Merci.
Et vous voyez, vous incarnez tout le problème de ce genre de mesures.
En tout cas, merci à Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, d'avoir été avec nous. On retourne au 32-16. On vous pose la question, délinquance, terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale? On va du côté de La Rochelle retrouver, si je le vois bien, c'est votre prénom, Nicolas, c'est ça?
Ça, tout à fait, bonjour.
Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie?
Commercial.
Très bien, Nicolas. On est très fort chez les commerciaux. Ouais. Ouais. Nicolas, bah oui. Vous êtes en déplacement là, peut-être.
Je suis à Nyon,
ouais, c'est ça. Ouais, bah, on est très écoutés en déplacement, en mobilité, comme on dit chez RMC. Nicolas, est-ce que la reconnaissance faciale vous inquiète ou est-ce qu'elle vous rassurerait?
Moi, ça m'inquiète plutôt dans le sens où aujourd'hui, on a des délinquants multirécidivistes qui sont dehors. Bah, si des gens commençaient par faire notre travail, c'est-à-dire enfin, ou la justice,
ouais,
mettre en prison et leur apporter une peine qui soit juste, mais qui soit exécutée, ce serait déjà le premier point. Mmh. Deuxième chose, vous avez un excellent reportage qui s'appelle « Ma femme a du crédit ».
Madame, ma femme a du crédit.
Ma femme a du crédit, ouais. C'est un journaliste français qui est marié à une chinoise et qui la filme pendant un ou deux ans, je ne sais plus. Et où on voit bah, toutes les dérives de la reconnaissance faciale. Elle est reconnue partout, elle va dans les magasins, dans les...
En Chine
quand, en Chine, ouais.
On parle d'une dictature quand même.
Ouais, mais cette dérive-là, je n'en veux pas. Aujourd'hui, on ressent, enfin, les Français ont un besoin de sécurité et ils sont prêts à lâcher sur leur liberté pour obtenir cette sécurité. Et la dérive, elle peut aller très vite. Elle peut aller très vite.
Bah, dans une dictature, oui. Dans une démocratie, c'est différent quand même, non?
Et puis surtout, la dictature, elle n'a pas attendu l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale pour suivre les gens, ficher les gens. Donc, en fait, vous me dites, ça conduit à une dictature. Non, la dictature, intrinsèquement, elle entrave les libertés. C'est pas l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale.
Tu as raison de dire qu'il est
au pouvoir.
Tu as raison de dire...
Le problème, Nicolas.
Tu as raison, Thierry, de dire.
Et Thierry a parlé tout à l'heure du reportage de la DGSE qui est passé hier soir sur France 2, qui était excellent. Et la DGSE, la DGSI font déjà un travail qui est excellent. Laissons-les faire. On n'a pas besoin d'être tous filmés tout le temps et reconnus partout où on va.
Moi, je me dis juste une chose. J'ai une image qui me vient en tête en parlant de ce sujet. Je ne dis pas que je suis pour ou contre. En tout cas, ça me fait réfléchir. Le 13 novembre 2015, les attentats du Bataclan. On sait aujourd'hui que rappelez-moi le nom du principal terroriste qui a été tué ensuite à Saint-Denis,
Abdeslam.
Salah Abdeslam. On sait qu'il est revenu
chez après.
On parle pas du même. Le commanditaire, vous savez, qui venait qui venait de Syrie. On va retrouver son nom. Qui a été tué ensuite à Saint-Denis dans l'assaut qui avait été donné à Saint-Denis. Ce soir-là, il est revenu. Il était aux abords du Stade de France. Il avait déposé les terroristes. Ce soir-là, il est revenu après sur les lieux. Devant le Bataclan. Et on a cette fameuse image d'une capture vidéo, d'une caméra du métro, où on voit son visage, ses fameuses baskets orange. Il faisait partie du commando des terrasses. C'est une image que les enquêteurs ont obtenue, ont réussi à avoir, et puis ensuite, ils l'ont reconnue sur cette photo, parce que c'est des experts de la DGSI ou de la DGSE, je ne sais pas, mais qui l'avaient identifié. Mais si cette image, il y avait eu de la reconnaissance faciale, si à ce moment-là, une caméra de reconnaissance faciale avait tilté, avait donné l'alerte sur la présence...
Abdelhamid Abaoud.
Bien sûr, Abdelhamid Abaoud. Si Abdelhamid... On aurait pu, à ce moment-là...
À condition d'avoir que les programmes le recherchent.
Il était fiché. Je peux te dire qu'Abdelhamid Abaoud, il était fiché.
Il était recherché.
Oui, ça fait bing tout de suite.
Moi, ça me pose juste la question. On refait pas l'histoire, mais on sait que.
Mais en fait, alors, Thierry, je vais te
jurer. Un marteau, si tu l'utilises, je termine.
Thierry, si tu permets. Il s'est fait abattre quelques jours plus tard à Saint-Denis. On sait que durant ce laps de temps, il était en train de préparer une nouvelle attaque, peut-être à la défense. Voilà.
Non, mais Thierry, tu pointes la différence effectivement entre l'outil et l'usage. Et
effectivement, un marteau, c'est un outil dangereux.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais cela dit, ça pose la question de la confiance et dans la classe politique et dans nos institutions aujourd'hui. Mmh. Oui. Je n'irai pas au bout de l'analyse de Juliette parce que je ne pense pas que, ou de notre auditrice, je pense pas qu'avec 200 000 places de prison, la France serait plus sûre. Et je pense que si on avait 200 000 prisonniers en France, c'est que notre société aurait d'autres problèmes à se poser. Mais cela dit, c'est un problème de confiance. Effectivement, un outil n'est jamais mauvais en lui-même. Mais aujourd'hui, il y a un vrai déficit de confiance dans l'usage qui va en être fait, et tout le monde se dit à tort ou à raison, alors toi tu vas parler de procès d'intention, certains vont parler de précaution, en disant, si on met ça en place, on donne les moyens d'aller beaucoup plus loin. Effectivement, Mme Macron, c'est pas Xi Jinping. Nous ne sommes pas dans la Russie de Poutine. Évidemment, non, d'ailleurs, sinon on serait pas là en train de parler.
Absolument.
Néanmoins, la peur de l'usage qui peut en être fait qu'on ne regarde plus l'outil, et ça c'est un problème de confiance dans nos institutions et de confiance dans notre classe politique, c'est que a priori, on pense qu'ils vont l'utiliser à notre désavantage.
Merci à Nicolas d'avoir été avec nous, et Nicolas qui nous a appelé au 32-16 depuis La Rochelle. On vous a posé la question, délinquance terrorisme, doit-on autoriser la reconnaissance faciale, Alfred?
Vous répondez oui à 78%, non à 22%. Je finis avec un message de Christo. De toute façon, on est déjà tracé entre les téléphones et les cartes bleues.
Mais bien sûr.
Ça ne peut être que dissuasif.
Vous êtes nous, vous le saviez peut-être pas, mais on est filmé en ce moment même.